sur Europe 1 à 8h40 dans la matinale de Thomas Soto.
Ah, petite Soto.
Ça faisait longtemps. Hein.
Retrouvez la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Ça t'intéresse pas quand je cause avec des politiques, c'est ça?
Nicolas Canteloup bouscule l'actualité avec son humour décapant.
Allez, viens dehors, stand-up, je vais te faire cracher ta banane, Soto.
Et ses imitations imparables.
J'adore votre matinale, c'est vraiment une émission de malade.
Nicolas Canteloup, du lundi au vendredi à 8h40 dans la matinale d'Europe 1.
Europe 1, un temps d'avance.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Grâce à Franck Ferrand, chaque jour sur Europe 1, nous apprenons à mettre des visages et des histoires derrière des noms. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Prometteur, ce titre, je vous le concède, mais tout à fait justifié pour parler d'un homme dont l'empreinte sur le grand siècle est sans doute incomparable. Vauban avait tout le temps de réfléchir au cours de ses très longues, de ses incessantes pérégrinations à bord de ce bureau volant qu'il appelait sa basterne, mais le fait est que ses réflexions ont souvent été fécondes, vous allez vous en rendre compte. Je suis heureux que Dominique Lebrun puisse être des nôtres cet après-midi. Et puis, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question d'Hervé sur les origines de l'expression « hôtel de police, hôtel de ville, hôtel des impôts » ou tout simplement « hôtel des invalides » puisque nous allons parler de Vauban.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Vauban, le duc de Saint-Simon, qui n'est pas connu pour ses flatteries, disait « Jamais homme plus doux, plus compatissant, plus avare ménager de la vie des hommes, avec une valeur qui prenait tout sur soi et donnait tout aux autres. » Après un tel jugement, impossible d'en rester à la seule image du grand stratège, preneur de cité, défenseur hors pair, architecte de 300 places fortes, dont plus de 30 qui ont été créées purement et simplement par lui, à partir de rien. À l'évidence, il existe une autre facette de celui qu'on a appelé le bonhomme Vauban, comme on dit le bonhomme Le Nôtre ou le bonhomme La Fontaine. Cet autre visage est celui d'un humaniste, attentif à toutes les conditions, d'un observateur juste, prévoyant, et qui se révélera être le véritable fondateur en France de l'économie politique. Oui, je comprends encore une fois la formule de Dominique Lebrun utilisée en sous-titre de ce bel ouvrage, l'inventeur, en quelque sorte, de la France moderne. Toute la carrière militaire de cet homme sorti du rang pour devenir en fin de compte maréchal de France, nous sommes sous l'Ancien Régime, hein, comprenez de quoi nous parlons, c'est une ascension quasiment sans exemple. Tout ce parcours de soldat aura été guidé par une obsession, je crois que le mot n'est pas trop fort, celle d'épargner des vies et d'améliorer le quotidien des combattants. Vauban a été blessé lui-même à plusieurs reprises. Il a été longtemps dans sa jeunesse le témoin impuissant des sièges qui à l'époque étaient extrêmement sanglants. Vous savez qu'une prise de ville, ça se calculait en nombre de centaines de morts. Hein. Tout ça était terrible. Eh bien, il n'aura de cesse par la suite d'inventer les moyens de rendre les assauts un peu moins meurtriers, même beaucoup moins meurtriers, tant pour les assaillants d'ailleurs que pour les défenseurs. Si vous rouvrez vos livres d'histoire, ils vont vous dire que Vauban a été commissaire général des fortifications à partir de 1678. C'est vrai, mais ça c'est un titre. Ce n'est qu'un titre, devrais-je dire, qui recouvre en vérité de très longs, d'interminables déplacements à travers le royaume, ce qui est en même temps une occasion idéale d'observer les provinces traversées, de rencontrer les sujets souffrants du roi de France. Ainsi Vauban va-t-il prendre conscience des conditions de vie de ses contemporains? Il faut l'imaginer assis donc dans cette espèce de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est comme une voiture qui n'aurait pas de roue, qui est portée par un brancard, hein, par des mulets, un mulet devant, un mulet derrière. Je pense même qu'il y avait deux mulets devant, deux mulets derrière, en l'occurrence. Il appelait ça sa basterne, et ça lui permettait d'être assez confortablement installé pour meubler ses heures de voyage à rédiger les fameuses oisiveté, ce recueil d'observations et de réflexions dans lequel on trouve de la démographie, de la géographie, de la prospective. On va voir tout ça dans un instant avec Dominique Lebrun. Il ne faut pas oublier, et je vais vous le raconter, que ce bonhomme est né pauvre, qu'il a été élevé à la dure et qu'il a donc eu par la suite d'innombrables occasions de méditer sur l'injustice du système fiscal de l'ancienne France. peu de temps avant de mourir, le 30 mars 1707. Rappelez-vous, nous avions largement, amplement célébré le tricentenaire de la mort de Vauban en 2007. Le grand homme va publier avec une magnifique audace son projet d'une dîme royale qui préconisait non seulement la progressivité de l'impôt, mais l'égalité de tous les sujets sans exception devant la contribution, considérée comme un engagement civique. Comment s'étonner après cela que Vauban se soit fait d'innombrables ennemis et qu'il ait créé les conditions de cette relative disgrâce qu'il aura connue à la fin de sa vie. Relative disgrâce, on en reparlera aussi tout à l'heure. Celui que Voltaire appellera « le premier des ingénieurs et le meilleur des citoyens » n'en aura pas moins été le seul à s'élever par exemple contre les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes, contre la généralisation des dragonnades à travers le royaume. Les dragonnades sont ces terribles persécutions qui affectaient les protestants à partir du milieu du règne de Louis XIV. Donc, le monsieur que nous allons ressusciter maintenant avait certes un rude caractère, mais ne perdez jamais de vue qu'au fond, il y a la tendresse du cœur et la noblesse de l'âme. Sébastien le Prestre de Vauban, c'est son vrai nom, on l'appelait le prêtre tout simplement, appartenait à cette petite noblesse de province qui ne faisait pas grand bruit, on est très loin des seigneurs de la cour là, mais une petite noblesse qui défendait une certaine droiture dans la vie. Il s'agit d'une noblesse récente en l'occurrence, c'est le grand-père de Sébastien qui était notaire dans un bourg du Morvan et qui a pu acheter un fief donnant des lettres de noblesse. On était là en 1555, donc moins de 80 ans avant la naissance de Sébastien, au printemps 1633. Le père, quant à lui, il s'appelait Urbain de Vauban, le père a épousé une certaine Edmée Corvignol, on est vraiment dans le terroir, hein, j'allais dire on y est jusqu'au cou, c'est elle, cette bonne Edmée, qui apporte en dot une demeure paysanne à Saint-Léger de Foucheret, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Léger-Vauban bien sûr, c'est la maison natale de notre grand homme. Donc, et j'insiste, dans un milieu pauvre, rien de si court, de si nouveau, de si plat, de si mince que cette famille, dira Saint-Simon. Comme presque toujours à l'époque, le curé de la paroisse, le curé de Saint-Léger, va instruire l'enfant, lui apprendre à lire, à écrire, à compter. Il le trouve doué. On va voir Vauban faire tout de suite des prouesses en arithmétique, en géométrie, comme par hasard, bien entendu. Et très tôt, on le voit lire un traité des fortifications. Il se fait remarquer, les grands stratèges de l'époque ont besoin de jeunes cerveaux brillants, bien entendu. C'est le cas du plus grand de tous, qui se trouve être le gouverneur de la Bourgogne à l'époque, le prince de Condé, en personne le cousin du jeune roi Louis XIV, le terrible frondeur, le vainqueur de Rocroi avant tout cela, celui qu'on appellera le grand Condé. Eh bien, quand Sébastien a 18 ans, nous sommes là en 1651, le grand Condé l'emmène à sa suite jusque dans les Flandres, et très vite, on voit Sébastien travailler au rang part de Clermont en Argonne.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
14h-15h, Franck Ferrand.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir l'architecte de génie militaire de Louis XIV, Vauban, qui se fait remarquer très jeune.
Sébastien, le prêtre de Vauban, a 20 ans. Quand il participe au siège de Sainte-Ménéhoult, il s'y comporte d'emblée en véritable héros, il faut le dire. Ce gamin n'a peur de rien. Par exemple, on le voit traverser une rivière à la nage sous la mitraille. On imagine les balles hein, qui ricochent à la surface de l'eau. Il est là, toujours présent. Il va contribuer à faire tomber la place, tant et si bien que très vite, au bout de même pas 4 ans, il est fait ingénieur ordinaire de Sa Majesté. C'est déjà ce qui s'appelle commencer dans la carrière militaire avec tambours et trompettes. Sous ce beau titre d'ingénieur ordinaire, il est blessé à 3 reprises. C'est dire que ce n'est pas quelqu'un qui reste gentiment à l'arrière et qui simplement trace des plans. Il est là, présent, il est toujours au feu et il prend des blessures terribles. C'est ce qu'on appelle dans la carrière militaire s'illustrer. Eh bien, on peut dire que Sébastien s'illustre. En 1663, dans son Morvan natal, il trouve néanmoins le temps d'épouser une demoiselle de vieille noblesse, elle de son côté, bien plus vieille que la sienne. Elle s'appelle Jeanne Daunet. Il vivra très peu avec elle, puisque la vérité, c'est qu'il est toujours par Mons et par Vaux. On peut pas dire que ce soit un mari très encombrant qu'elle a épousé, la pauvre Jeanne. L'ingénieur militaire, bientôt, va participer aux travaux considérables que nécessite la première grande guerre du règne de Louis XIV, qu'on appelle la guerre de dévolution. et c'est la première campagne des Flandres, au cours de laquelle il est encore blessé, devant Douai cette fois. Il est à l'origine, ce jeune Vauban, de tant de victoires que le roi Louis XIV, il est tout jeune encore Louis XIV bien entendu, mais il a déjà pris le pouvoir personnellement à ce moment-là depuis 2 ans. Louis XIV est à tous les rapports, il sait exactement ce qui se passe. Il remarque Vauban et il n'est pas le seul à le remarquer puisque les ministres autour du roi, que ce soit Colbert, Louvois, enfin tous, sont parfaitement conscients des qualités tout à fait exemplaires de ce jeune homme qui, à 34 ans, sait qu'il est l'homme de la situation. C'est lui, se dit-il, qui construira la frontière. Vous savez, il y a des vocations comme ça parmi les grands personnages historiques. Eh bien, on peut dire que la vocation essentielle de Vauban, au-delà des prises et des défenses de cité, sa vocation essentielle, c'est cette idée de limesse, cette idée de frontière. Il va aider Louis XIV. On connaît la phrase, on l'a plus ou moins tous appris un jour à l'école. Il va aider Louis XIV à faire son précaré. Mais c'est vrai. Il va essayer de dessiner les frontières d'un royaume de France à peu près cohérent et plus facile à défendre. Alors, il lui faut défendre des places qui sont difficiles. Il lui faut fortifier des places difficiles. Je pense à Dunkerque. Ce n'est que du sable et de l'eau, nous dit Daniel Alévi. Pour défendre la terre, Sébastien emploiera la mer. Il captera ses eaux et les étendra au long des glacis. Néanmoins, il faut lutter contre un ensablement permanent. Tout ça est extrêmement difficile. Et je ne vous dis pas les miasmes qui émanent de toutes ces terres remuées et qui vont tuer beaucoup de soldats au travail. Pour combattre l'ensablement, Sébastien recueille et canalise des eaux terrestres et d'un seul coup, il les lâche, il fait des barrages, si vous voulez, et il ouvre les barrages d'un coup, il utilise la force de l'eau pour dégager les passes. Vous comprenez que d'emblée, ce travail qui est un travail de terrassement, un travail de creusement, c'est un travail pharaonique. On peut dire que d'emblée, nous sommes lancés dans ce qui va devenir sans doute un des plus grands travaux de fortification jamais imaginé, car Monsieur de Vauban ne va pas s'en tenir là. On va le voir progressivement fortifier l'île, Tournai. Alors on descend en Pignerolles, là on est en pleine montagne hein, bien entendu, et Antibes, Perpignan, Collioure, Douai, et on remonte, hein, oui, Douai, Arras, Bapaume, Béthune. Vauban fait surveiller les chantiers par des gardes à cheval, parce qu'il a compris qu'un des principaux problèmes, c'est celui que posent les désertions en nombre à une époque où le recrutement laisse fort à désirer. Fontenelle, dans l'éloge qu'il prononcera de Monsieur de Vauban devant l'Académie des sciences, nous dit « Monsieur de Vauban a fait voir par sa pratique qu'il n'avait point de manière. Chaque place différente lui en fournissait une nouvelle, selon les différentes circonstances de sa grandeur, de sa situation, de son terrain. » C'est exactement ça. S'il fallait retenir de l'art de Vauban une chose, c'est cette extraordinaire faculté d'adaptation de l'ingénieur qui se plie intégralement aux données du site pour adapter sa défense à ce qui lui est proposé en quelque sorte. Pour boucher la trouée de la Sarre, il crée de toutes pièces une place forte, Sarre-Louis. À Metz, il ressuscite l'ancien oppidum gaulois, et pourquoi pas. Et il organise un système d'écluses pour inonder les contrebas. À Neubrisac, il imagine un ensemble de tours bastionnées qu'il ne reproduira nulle part ailleurs, car, comprenez bien cela, et même si, vu de loin comme ça, ces places bastionnées nous font penser toujours un peu la même chose, sont des étoiles quelque part vu du ciel. Néanmoins, jamais, jamais Vauban ne se répète. En montagne, qu'il soit dans les Pyrénées ou qu'il œuvre dans le Dauphiné, le relief l'amène à réviser ses principes de fond en comble dans des rades comme Brest ou Toulon. Eh bien, on emploie encore de toute autre méthode. Et au total, ce sont plus de 100 villes ou bourgs qui sont ainsi fortifiés. Le grand œuvre, c'est donc construire la frontière avec des places fortes, des plaines inondables qu'on a tendance nous à oublier aujourd'hui mais qui sont essentielles, des batteries d'artillerie extrêmement importantes, des canaux bien entendu. Bref, cette cuirasse de pierre, d'eau, de terre, de feu croisé qui a dessiné la France, qui la dessine encore. Même s'il est loin d'être le seul à y avoir œuvré, on peut dire, et là vraiment, faites-nous confiance, ce n'est pas un abus de langage, que Vauban en aura été le principal artisan.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Vauban était un architecte de génie. Il a laissé ses traces en France, dans de nombreuses villes. Et d'ailleurs, les projets architecturaux de Vauban, que vous nous faites découvrir cet après-midi sur Europe 1, continuent, Franck.
La frontière de 1668, nous dit Pierre Gaxotte, était biscornue, enchevêtrée, absurde. Oui, c'était comme une sorte de mosaïque lépreuse, un petit peu. En 1673, voici ce qu'écrit Vauban. Il s'adresse au ministre, il s'adresse à Louvois. Sérieusement, monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son pré-carré. La voilà l'expression. Cette confusion de places amies et ennemies, pêle-mêlées les unes parmi les autres, ne me plaît point. Vous êtes obligé d'en entretenir trois pour une. Si vous m'en croyez, monseigneur, prêchez toujours la quadrature, non pas du cercle, mais du pré. C'est une belle et bonne chose de pouvoir tenir son fait des deux mains. On adorerait que des administrateurs s'adressent aujourd'hui à nos ministres dans un style pareil et avec cette franchise lumineuse qui permet d'emporter toutes les décisions. Et Gaxotte d'ajouter, je le cite, « On peut se demander si, en une certaine mesure, la politique des réunions n'a pas été inspirée par les objurgations de Vauban à Versailles. » Et oui, c'est que les bureaux des ministres à Versailles croulaient sous les notes d'un monsieur de Vauban qui disait somme toute toujours la même chose, mais qui, un peu à la manière de ses fortifications militaires, savait les dire chaque fois d'une manière différente. C'est là que l'ambition de Sébastien, si j'ose encore l'appeler ainsi, nous donne le tournis. Ses idées tactiques, je pense par exemple à la défense en profondeur, mise en œuvre à l'échelle de chaque place, de chaque ouvrage, voilà qu'il les transpose maintenant sur le plan stratégique à l'échelle de la frontière de tout le royaume, si l'on veut. Ainsi, c'est la France tout entière qui devient une sorte de fortification de Vauban. Sébastien est un homme de son temps, pour qui les grands desseins ne dispensent pas des plus légers détails, ni les visées élevées des sentiments humains. Surtout, c'est un homme du siècle de Louis XIV en ce qu'il aime faire à la fois grand et beau. La grandeur, on peut dire qu'elle parle d'elle-même, mais pour ce qui est de la beauté, elle fait à ses yeux partie des armes, ou plus exactement des arguments stratégiques destinés à impressionner l'ennemi, à lui inspirer du respect, de la crainte et pourquoi pas aussi une forme d'humanité. Nous sommes au grand siècle, grand sous tous les rapports. Lors des travaux de Vauban à Strasbourg, par exemple, on voit le ministre traîner des pieds. Louvois n'a pas tellement envie d'avancer. Sur les ébauches qu'on lui montre, les portes de la citadelle lui paraissent surdécorées. Il se pose des questions. Après tout, pourquoi tous ces ornements qui n'apportent rien à l'art militaire? Que Vauban fasse avec 12 000 écus. Il n'aura pas un denier de plus. On a l'impression d'être en 2016 d'un seul coup. Strasbourg, c'est la porte de l'Allemagne. Et là, Vauban se dit que ses ministres ne comprennent décidément rien. Strasbourg, c'est l'endroit où il importe le plus de se montrer magnifique afin d'en imposer à tous les princes frontaliers. Et puis, ajoute l'ingénieur, puisque mon ouvrage est bon, pourquoi m'en refuser le couronnement? Dois-je ajouter qu'il aura gain de cause, monsieur de Vauban? Évidemment, on va lui donner l'argent qu'il veut. Il va mener, écoutez bien ça quand même, 52 sièges, sans aucun échec. C'est complètement incroyable. On disait ville investie par Vauban, ville prise. Au siège de Maastricht en 1673, il va inventer ce qu'on appelle les parallèles, qui protègent les boyaux de tranchées des offensives des assiégés. Et c'est ce dont on s'inspirera beaucoup plus tard au moment des tranchées de 1914-1915. Vous savez, à Luxembourg en 1684, il crée les cavaliers de tranchées, c'est-à-dire des espèces de tours fabriquées à partir de sacs de sable et de gravats. À Philippsbourg en 1689, il met en place le tir à ricochet avec des projectiles qui sont lancés à charge réduite. Ce sont des boulets creux, ce qui leur permet de rebondir, d'aller plus loin et de frapper plus fort. Sébastien obtient là de tels résultats qu'on décide sur le champ de le nommer lieutenant général. Il est devenu un grand personnage, évidemment, il a l'oreille personnelle du roi, mais il n'en est pas moins toujours personnellement présent. Il veille à tout, toujours en première ligne. Le sieur Vauban doit être empêché de s'exposer inutilement, écrit Louis XIV en marge d'un rapport. Il n'y a rien à faire, il a décidé, lui, qu'il s'exposerait. Il a 64 ans devant hâte lorsqu'il est une fois de plus blessé. J'eus grand soin de me faire voir dès le lendemain à la tranchée avec un visage gai et éveillé, écrit-il dans son rapport, et je m'aperçus avec plaisir que tout le monde en eut de la joie. Il sera maréchal de France en 1703, ce qui veut dire que désormais, lorsque le roi Louis XIV lui écrit, il s'adresse à lui en écrivant « mon cousin ».
Là-dessus, on met le siège devant Kehl. Sébastien réclame l'honneur d'aller s'en charger. « Mais songez-vous, monsieur le maréchal, que cet emploi est très au-dessus de votre dignité, » lui dit Louis XIV. « Sire, il s'agit ici de vous servir. Plus vous nous élevez, plus nous devons en avoir envie. Je laisserai le bâton de maréchal à la porte et j'aiderai à prendre la place, » dit-il. La vie errante de Sébastien lui a par ailleurs donné, je vous l'ai dit, maintes fois l'occasion de voir de près les réalités du terrain. En faisant un rapport direct au roi, ça c'est extraordinaire d'être devenu maréchal de France, il peut se permettre d'écrire à Louis XIV, ça c'est tout à fait inouï. Alors il fait des rapports partout, sur le canal du Languedoc, sur le commerce, la monnaie, les chevaux, les colonies, les gabelles, les billets de commerce. On va venir à tout ça bien sûr, les poids et mesures et l'élevé d'impôts bien entendu. Il appelait ça des oisivetés. Elles étaient abondantes, elles étaient précises, elles étaient utiles, mais bien entendu pour certains, elles étaient irritantes. Sébastien s'étonnait souvent de l'apparente passivité du grand roi à ses demandes de réforme. Il ignorait à peu près tout des impératifs de ce qu'on appelle la grande politique. Lui, il voyait les choses concrètes, urgentes, utiles. Un jour, au cours d'une séance de travail avec Louis XIV, il recommande chaudement un habitant très méritant de Saint-Malo et réclame pour lui des lettres de noblesse. « Ah, ça non, dit le roi, je ne puis, la noblesse est le prix du sang. » Sébastien pâlit, il se mord les lèvres, il ramasse ses papiers, il sort sans dire un mot. Et pendant 2 jours, Louis XIV fait comme s'il ne le voyait pas à chaque fois qu'il le croise. Et puis au 3e jour, il l'attire à part dans la galerie devant tous les courtisans et lui dit « Vauban, je ne suis pas fâché contre vous. Allez, je vous accorde la noblesse de votre ami. » Bonjour Dominique Lebrun.
Bonjour.
C'est un sacré bonhomme dont vous vous êtes chargé. Alors avec vous, nous allons essayer de voir l'autre Vauban maintenant.
Grâce à vous, cet après-midi, sur Europe 1, Franck Ferrand, nous connaissons un petit peu mieux l'architecte de génie Vauban et nous allons continuer à le découvrir avec votre invité. Vous recevez Dominique Lebrun, écrivain, spécialiste de l'univers maritime et auteur de Vauban, l'inventeur de la France moderne, paru à la librairie Vuibert.
Vous reprenez vous-même, Dominique Lebrun, cet éloge de Vauban devant l'Académie des sciences, où l'on voit l'immensité de l'œuvre accomplie. On ne peut pas passer à côté, même si c'est l'autre Vauban qui nous intéresse. Le stratège, le constructeur, le défenseur, le fortificateur, si j'ose ainsi m'exprimer, de la France, passe avant tout.
Oui, parce que c'est ce que l'on en voit encore, mais le plus important n'est
pas
là.
Avec ces sites classés aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Sites classés, et puis l'esthétique des lieux est fantastique. Les paysages eux-mêmes, je pense à Briançon, je pense aux Pyrénées, Villeneuve-de-Conflans, c'est juste grandiose. Mais ce qui est plus grandiose encore pour moi, c'est vraiment ce qu'il a fait à côté dans sa petite tête, dans sa basse terne, lorsqu'il traverse la France dans tous les sens. Parce qu'on m'a dit, mais Vauban, il était partout. Et je réponds, oui, et 3 fois plus fois qu'une. Donc il a passé sa vie à voyager, sa vie à observer, sa vie à analyser, à essayer de quantifier et à trouver des solutions.
Je me rappelle une émission qui avait un documentaire qui a été fait, ce qu'on appelle un docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y avait des images de reconstitution, vous avez dû voir ça, oui. Au moment du tricentenaire de Vauban. On le voyait justement écrire et lire dans sa basterne, et on avait une carte du Royaume de France. Et alors on dessinait peu à peu ses pérégrinations, ses voyages, et puis petit à petit ça finissait par devenir une espèce d'énorme gribouillis, et on se disait mais c'est pas possible, il a plus voyagé avec ses mules à l'époque que nous ne le faisons avec nos voitures et nos trains modernes.
On peut le dire comme ça, premier point. Alors ensuite, est-ce qu'il le faisait avec des mules? Vous savez, la basterne, ce n'est pas sûr qu'elle ait existé.
Ah bon?
Il se peut que ce soit un mythe qui correspond tout à fait au personnage, qui correspond techniquement à l'usage. Mais ma petite vision personnelle des choses est qu'un technicien comme lui, l'homme qui a inventé le fusil de Vauban, la baïonnette de Vauban, s'il avait inventé cette basterne qui est finalement l'ancêtre du
commande mobile, oui.
C'est l'ancêtre du commande-car de la Seconde Guerre mondiale.
C'est ça.
On en aurait parlé plus, il aurait fait des plans. Or, il n'en existe pas.
Non.
Et les maquettes qui ont été réalisées, elles sont en contradiction les unes avec les autres. C'est du fameux film, la sueur évite le sang.
C'est ça.
N'est pas juste du tout. Et puis, j'aimerais savoir qui était le malheureux secrétaire qui était assis en face de lui et qui, avec sa mine de plomb vraisemblablement, dans les chaos de cette basterne, notait ce que dictait le grand Vauban.
Alors, en tout cas, il avait la santé pour pouvoir parcourir de telles distances. Il a été partout, partout, partout.
Partout. Il se soignait au Leidanès, écrit-il.
Ah, voilà.
C'est souverain, c'est bien connu. Non, en fait, il a été partout. Il y a même été très vite lorsque la Savoie attaque la France par l'école alpin, par un endroit auquel on ne pensait absolument pas. C'est entre octobre, avec des premières neiges, et février, qu'il va concevoir la défense du massif alpin tout entier. C'est juste colossal. Alors, quand vous parliez de cartes tout à l'heure, les cartes n'existaient pas. Cassini, c'est après seulement. Donc la vision qu'il a, et ce n'est pas le papier sous les yeux, c'est une... Comment dire, il internalise complètement son propos, et pour moi ça reste encore un petit mystère, comment ces gens faisaient-ils pour assimiler aussi bien des reliefs d'une complexité terrible.
Et pour les reconstituer d'ailleurs, car nous avons à cette époque le tout début de ce qu'on appellera les plans reliefs, qui Absolument. Se poursuivront jusqu'au règne de Louis-Philippe par la suite, mais qui sont aujourd'hui en très grande partie conservés aux Invalides, il y en a aussi au musée de Lille, et ces plans reliefs sont des maquettes extraordinairement précises avec les reliefs, les cours d'eau, etc. Enfin, on a des morceaux entiers du paysage du XVIIe siècle comme si on les survolait en hélicoptère. Hein.
Ça va plus loin que ça, parce qu'ils sont tous faits comme si c'était le printemps.
Eh oui.
Les différentes cultures sont représentées, que l'on sache si on avait affaire à de la vigne, à des bosquets ou à des champs. D'un point de vue stratégique, c'est absolument capital. Et effectivement, les visiter avec un conférencier, c'est une expérience absolument extraordinaire.
Nous avons toujours l'image de Neubrisac ou de quelques places qui sont en quelque sorte les modèles parfaits, purs et parfaits de la fortification de Vauban. Mais il est évident que quand il est à Besançon, par exemple, il s'adapte au relief. Hein.
Besançon est peut-être le meilleur cas, avec le Doubs qui nous fait une belle courbe, avec donc du coup une fortification en face. D'autres fortifications sont très amusantes à analyser, c'est Bordeaux par exemple, qui n'est pas prévu pour se défendre de l'ennemi extérieur que des habitants de Bordeaux eux-mêmes. C'est encore une autre histoire, ça, le château de Trompette.
On a l'impression que, et on va y venir quand on parlera de l'économiste dans un instant, on a toujours le sentiment, lorsqu'on évoque Vauban, que son idéal est un idéal de paix, de prospérité, d'assise, qu'il y a, au-delà de l'épargneur d'hommes dont nous avons parlé, la volonté de protéger la vie humaine et de la faire fructifier d'une certaine manière.
Je préfère quand vous dites faire fructifier la vie humaine que la protéger. Ce n'est pas par pure humanité que Vauban veut éviter de perdre des vies. Son angoisse, il a bien compris quel était le point de vue de Louis XIV et que les guerres n'arrêteraient pas. Il fait semblant de penser qu'elles sont justes. Et il se dit, et si un jour la France n'avait plus assez d'hommes pour remplir ses armées, et surtout pour cultiver les champs pendant ce temps-là, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière les charrues, il faut quelqu'un. S'il n'y a pas de charrues, il n'y a plus de blé. S'il n'y a plus de blé, on ne nourrit plus. Et des militaires non nourris, ça ne sert à rien.
Et voilà.
Donc sa démarche est absolument objective. Elle est technique, c'est l'ingénieur. Alors certes, il y a l'humanité, mais il n'y a pas que ça.
Il y a chez lui une sorte d'obsession de l'utilité.
Oui.
Comme s'il fallait que l'utile s'exprime et s'impose, en quelque sorte. Hein. C'est assez étonnant, ça. C'est vrai d'un point de vue militaire, mais pas uniquement.
Non, mais c'est la leçon de la nature. Il a passé sa jeunesse dans le Morvan, qui est un pays très rude. C'est donc une petite montagne où il neige en hiver, une station de ski, au fond là, à 900 mètres d'altitude. Il y a crapahuté depuis qu'il était enfant. Il a appris à relever les traces des animaux. Il sait tout de la nature. Et par conséquent, pour lui, il y a un équilibre général entre ce qui est un lieu. S'il s'adapte aussi bien au terrain pour adapter ses fortifications, c'est parce qu'il a tout compris la nature. Le plus bel exemple pour moi, qui suis un homme de la mer, c'est de voir comment ce Morvandio comprend la marée, comment au contact des Malouins notamment, qu'il fait anoblir parce que ils ont financé les fortifications de Saint-Malo. Hein. Ce n'est pas Louis XIV était gonflé de ne pas vouloir anoblir l'armateur en question. Enfin, pour revenir donc au propos, la façon dont Vauban accède à la connaissance maritime pour en tirer des conclusions qui iront jusqu'à la géopolitique, c'est juste exceptionnel.
Il y a presque un côté extra-lucide chez ce bonhomme.
Totalement, totalement.
Ça lui vient d'où? Quel était son rapport à la religion d'ailleurs? Sur la fin de sa vie, ça prend une tournure un peu particulière, il faut le dire. Parce qu'il vit un peu une double vie quand même, il faut le dire.
Vous parlez de la moralité des maîtresses de Vauban?
Oui.
Non, moi je ne le vois pas comme ça. Quelqu'un qui dans son testament cite 5 personnes qui sont susceptibles d'avoir un enfant de lui.
C'est quand même incroyable, c'est à ça que je faisais allusion précisément.
Allègue, ça m'apparaît comme quelqu'un qui, au niveau donc de la perception du divin, est au-dessus du quotidien. Dans sa première étude sur les colonies, le premier souci pour faire des colonies qui fonctionnent, surtout qu'il n'y ait pas de moines. C'est le premier argument, pratiquement.
Qu'il n'y ait pas de moines.
Qu'il n'y ait pas de moines, parce que ce sont des parasites de la société. C'est donc, Vauban est quelqu'un qui est très croyant. À Lille, il y a sa chapelle, d'ailleurs, quand il est malade, sa chapelle qui est accessible directement depuis sa chambre, mais ce n'est pas un bigot. Et ça, à l'époque, c'est rare.
Ça n'est pas un bigot à une époque où il y en a beaucoup.
Oui.
Ça n'est pas non plus un courtisan. On le voit écrire, là, j'ai un peu insisté sur cet aspect parce que c'est amusant de le voir en correspondance permanente avec les bureaux versaillais. Il écrit notamment au grand ministre Louvois, qui a fait de très sales choses dans sa vie. Hein, enfin, ça, c'est un autre sujet.
Bon.
Et puis, il se permet, à la fin de sa vie, maréchal de France, il écrit carrément au roi lui-même. Que leur dit-il? Quelle est la teneur de tous ces rapports, de toutes ces lettres, de tous ces plis?
Alors d'abord, Vauban n'attend pas d'être maréchal de France pour
écrire au roi, d'ailleurs, oui.
Roi, qui lui a dit d'ailleurs, n'hésitez jamais à m'en parler, je ne dirai pas aux autres que vous en avez parlé, parce que le roi lui-même se méfiait de l'entourage. Et ça nous amène au rapport de confiance exceptionnel qui existe entre Vauban et Louis XIV, mais aussi Vauban et Louvois, et Colbert et Seignelay, ensuite son fils. C'est que ces gens savent qu'il n'est pas un dangereux, ce n'est pas un courtisan, c'est quelqu'un qui a pour passion la France, le royaume, un point c'est tout. Et lorsqu'il voudra un jour faire cet impôt sur le revenu dont on parlera tout à l'heure, ses ennemis d'où ça vient, c'est ça. C'est cet homme qui voit l'intérêt du royaume avant l'intérêt personnel des agents qui vont récupérer ces sommes et s'en prendre un certain pourcentage.
Est-ce qu'il n'a pas quand même avant l'heure un petit côté technocratique, si je puis dire?
Ah, la cochonnerie est de ce côté-là une œuvre extraordinaire. Avoir
faut expliquer ce que c'est la cochonnerie.
J'y arrive. La cochonnerie, c'est bel et bien le titre d'un essai. Ça consiste à prendre un couple de cochons, un cochon, une truie, et de voir sur X générations quel tonnage de viande on peut espérer en tenant compte des maladies, du nombre de... Donc dans la portée, sexe mâle, sexe femelle, etc. Et savoir combien de gens, en définitive, et pendant combien de temps, on pourrait nourrir. C'est la technocratie absolue avant l'heure. Il pousse le chiffre jusqu'au bout. Et puis pareil, avec son étude statistique de l'élection de Vézelay, où il compte les débits de boissons. Ici, il y a 3 moutons, là, il y a 4 vaches. Et tout ça sur un tableau synoptique. C'est fantastique.
Oui, j'ai finalement trouvé une chose que n'était pas Vauban. Ce n'était pas un poète. Mais en revanche, c'était sans doute un économiste. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, avec vous, Franck Ferrand, nous découvrons les secrets de l'incroyable destin du bâtisseur de génie Vauban. Grâce à vous et grâce à votre invité, vous recevez Dominique Lebrun, écrivain spécialiste de l'univers maritime et auteur de Vauban, l'inventeur de la France moderne, paru à la librairie Vuibert.
Je disais à l'instant, Vauban n'était pas un poète, vous n'êtes pas d'accord en fait, il y a une poésie du paysage, c'est ça?
Il y a son rapport à la nature qui fait qu'il est obligé d'être un poète.
Eh oui.
Mais il ne sait pas, ça l'aurait vexé qu'on lui dise ça. Il ne prétendait pas bien écrire d'ailleurs.
Non mais quand je dis qu'il n'était pas poète, c'est qu'il a quand même une vision extrêmement rationnelle,
c'est
concrète des choses.
C'est l'honnêteté intellectuelle. Il ne s'autorise pas à parler sans pouvoir prouver. C'est ça sa qualité, je pense.
C'est assez fort ce que vous dites, c'est-à-dire que il n'y a jamais chez lui de politique au sens 17e siècle du terme, il ne déguise pas sa pensée, il n'y a pas de stratégie dans sa façon d'aborder les sujets.
Dans son texte, dans ce qu'il écrit à Louis XIV sur la révocation de l'édit de Nantes, s'offre une phrase d'introduction politique, mais ensuite 50 phrases qui sont d'arguments chiffrés et qui ne sont pas ni de la religion ni de la philosophie, qui sont de l'argument économique.
C'est-à-dire que Vauban, un des rares dans sa génération, je dis, il n'est pas le seul du reste, mais d'ailleurs on parlait de Saint-Simon, je pense que Saint-Simon écrit plus tard. Mais en tout cas, il l'avait peut-être perçu.
Ce sera publié plus tard.
Beaucoup plus tard. Mais à cette époque, en tout cas, Vauban est sans doute le seul ou l'un des rares à avoir compris quel serait l'impact économique d'une mesure qui était religieuse et politique, c'est-à-dire cette révocation de l'édit de Nantes qui empêchait, qui supprimait la tolérance pour le culte protestant, avec ces expatriations très nombreuses de protestants qui vont aller enrichir les villes de toute la frontière française, en fait, hein, bien entendu.
Oui, Berlin est né des protestants français.
Sûr, oui.
Ça va plus loin d'ailleurs que le culte. En chassant les pasteurs, Louis XIV chassait aussi l'état civil,
oui.
Ce qui veut dire que les mariages n'étaient plus valables. Et que donc, à terme, il éradiquait totalement une partie de la population. Mais surtout, ce qu'il avait oublié, mais que Vauban, lui, savait parfaitement, c'est que les ingénieurs de Vauban étaient protestants. Les entrepreneurs qu'il faisait travailler étaient protestants. Les officiers de la marine française étaient protestants. Les commerçants du Val-de-Loire étaient protestants. Comme il y passait son temps donc à traverser la France et voir qui faisait la richesse de la France, il s'est juste rendu compte que c'était la décision la plus invraisemblablement stupide qu'on puisse prendre.
Alors nous avons bien entendu à l'esprit l'image de ce grand stratège qui a été souvent au feu, ça j'insiste toujours, oui. Parce qu'on a l'impression qu'il est dans un bureau et qu'il fabrique des fortifications.
C'est la cuirasse dans le château de Bazoches, on voit
encore
les impacts
de traces,
de mousquet.
Exactement, il faut y aller à Bazoches, hein,
il faut y aller.
Un endroit formidable, c'est le Morvan tel qu'on l'adore. Et Saint-Léger-Vauban finalement, c'est quasiment... la leçon même de ce que peut être un tempérament comme celui de Vauban. On comprend, il est le fruit de cette région incontestablement, d'une façon assez remarquable. Alors bon, il a été un homme de guerre, il a été un très grand bâtisseur et ingénieur, ça je crois qu'on l'a dit et répété, et on a cette image. Je pense que le nom de Vauban fait quand même partie des noms les plus connus de l'histoire de France et que à peu près tout le monde sait que c'est le monsieur qui a construit toutes ces grandes places bastionnées et qui a défendu la frontière. Bon, mais ce que vous nous montrez, et avec force argument, c'est qu'il est aussi ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, un économiste. Comment est-ce qu'on appelait ça au XVIIe siècle ?
Ça ne s'appelait pas.
Eh bien voilà.
Ça ne s'appelait pas. Vauban invente le raisonnement quantitatif à une époque où n'existe que le qualitatif. Du point de vue militaire, deux armées s'opposent. Vu l'armement qu'il y a à l'époque, il n'y a pas de... sauf disproportion des forces, l'une ne peut pas vaincre l'autre. Donc c'est un jeu d'échecs. Mais lui quand même se dit, à force de se battre, un jour peut-être qu'on n'aura plus assez d'hommes, et là il commence à compter. Lorsque il prévoit des sièges...
Donc au début c'est pour des histoires d'approvisionnement, etc. C'est ça.
On y arrive. Alors l'approvisionnement, c'est quoi l'idée? Puisque je fais un système de défense en profondeur, un siège sera sauvé par une armée de secours. Donc combien de temps peut-on tenir? Au terme de ses calculs, ça aboutit à 48 jours. Vauban est modeste, il se dit. Moi, je sais qu'une place, je la prendrai 48 jours. Les ennemis ne sont pas plus bêtes que moi, ils finiront par me copier, ce sera 48 jours aussi. Donc, il me faut des réserves pour 48 jours, et surtout pas plus. Parce que si j'ai plus, et que d'aventure ils prennent la place, ils auront des provisions de leur côté. Bien, je fais les provisions. Mais en temps de paix, à quoi vont servir ces provisions? Eh bien, soutenir le marché.
Eh bien, voilà.
Le jour où le
donc, ça, c'est le début de l'économie, tel qu'on le comprend, l'économie politique. Oui, voilà.
C'est l'économie dirigée, on y arrive. Il n'en a absolument pas conscience, mais il invente l'économie dirigée et soutenue.
Il a aussi une vision, disons-le, qui est une vision géostratégique, hein, qui ne s'éloigne jamais.
C'est une constante, et de ce point de vue-là, je suis très impressionné par sa capacité à prendre du recul sur le champ des opérations, d'abord européennes, et ensuite comprendre que ce qui fera la différence, ça se passera en mer.
Ça vous concerne.
Ça me concerne, c'est peut-être pour ça que je l'ai senti aussi bien, et pour ça je m'étonne qu'un Morvandiau l'ait saisi comme ça, en disant... Ceux qui vont tout jouer, ce sont les Hollandais, avec leur petit pays, ridicule en surface, mais qui font le commerce avec les Indes, qui ont le commerce des épices, qui ont donc des fortunes et de quoi se payer des armées, alors que nous on a des armées, mais rien pour payer nos armées.
Et c'est ça.
C'est ça, tout est là. Et il comprend qu'il faut donc du commerce maritime. Colbert y pense aussi.
Incroyable.
En créant la société, la compagnie des Indes. Mais, Vauban dit, pas de monopole. Qui dit monopole dit absence de concurrence. On revient à l'économie moderne. Il faut la concurrence.
Vous imaginez des hommes comme Colbert, Vauban. Louis XIV était très bien secondé quand même. À une époque, il fut magnifiquement servi dans les années 1670, disons.
Le grand talent de Louis XIV était un de ne pas s'entourer de nobles, mais de bourgeois qui avaient réussi et qui par conséquent géraient le royaume comme leurs propres affaires.
Alors on en était à la naissance des marchés, à la régulation des stocks, etc. Est-ce qu'il synthétise tout ça? Est-ce qu'il le théorise d'une certaine manière, comme aurait pu le faire un certain nombre de penseurs anglais, par exemple?
Oui, il le synthétise à travers des instructions. La seule vision globale qu'il a, à mon sens, est plutôt géographique. Mais non. Vous avez parfaitement raison. Lorsqu'il conçoit le système d'approvisionnement d'un chantier de siège, il décide que pour les pondéreux, l'idéal, c'est le canal. C'est jamais embourbé. Des grands chalands, on tire avec des chevaux des hommes, ça livre en temps et en heure. Et il se dit évidemment qu'à l'échelle du royaume, un réseau de canaux permettrait de transporter les choses facilement, et du coup, les régions riches par rapport aux régions pauvres, les régions ont fait du vin par rapport aux régions ont fait du blé, les régions ont fait... Et
C'est un début de globalisation. Hein.
C'est le maillage de la France. Et là, il le définit de façon très précise.
C'est presque avant l'heure une politique qu'on pourrait appeler, nous, avec un énorme anachronisme.
Aménagement du territoire, ben voilà, c'est simplement. Ça. Non, c'est un anachronisme. Je ne sais pas. Faudrait vérifier si le terme aménagement n'existe pas dans ses écrits, mais ce qu'il nous décrit, c'est bel et bien un aménagement du territoire.
C'est tout à fait incroyable. Alors, lorsqu'on feuillette les oisivetés qui ont été magistralement rééditées, il faut le dire, corpus d'ouvrages de Vauban, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de domaine de l'activité humaine qui finisse par lui échapper. Tout le passionne, tout l'intéresse, et tout est traduit en chiffres, en quelque sorte, et en perspective.
Oui, il y aurait peut-être de la médecine, on ne trouverait pas, peut-être, mais pour le reste, même si on prend le détail de la vie quotidienne et militaire, tout y est, y compris la couleur des tissus, le choix du textile et autres. Donc tout y est.
C'est assez, ça donne presque le vertige en quelque sorte. Hein. On pourrait presque parler d'un esprit universel d'une certaine manière, sous l'angle de l'économie, de ce que nous appelons l'économie.
À l'époque, l'humanisme, l'esprit universel est une chose. Non, c'est pas encore. Ça va le devenir. Ça n'est pas encore. Le siècle des Lumières, il arrive seulement. Non, on peut dire que c'est un précurseur.
Ah oui, c'est un précurseur. Absolument. Et pour la France, c'est sans doute un des esprits les plus et les plus largement étendus d'une certaine manière. Alors, il y a quand même un domaine qui est tabou dès lors qu'on parle d'économie, de finance, c'est le domaine fiscal. Ah. Là, si je puis dire, patouche, ça devient dangereux. On parle des questions politiques les plus sensibles, eh bien lui, ça ne le dérange pas. Ça l'intéresse même particulièrement, cette question-là.
Alors, ça l'intéresse particulièrement parce que l'idée fiscale qui est la sienne est la conséquence de ce qu'il a observé en traversant la France depuis des années. C'est une paupérisation constante qui s'aggrave. Il fait même des analyses précises en disant « Attention, la pauvreté ne touche plus seulement le bas peuple, mais les classes moyennes et même la petite aristocratie. » Il sent le danger. Et une des composantes à cette paupérisation est le fisc, c'est-à-dire que les paysans qui cultivent voient le fruit de leurs travaux partir dans les poches des fermiers généraux. Et c'est à partir de là qu'il va concevoir un système où c'est vraiment la fiscalité moderne. L'individu profite d'une infrastructure qui est celle de l'État. Donc, il doit apporter à l'État dans la proportion où il a profité. Toute la difficulté, et c'est là la raison pour laquelle la dîme royale ne fonctionnera pas, c'est qu'il n'existe pas encore vraiment les outils pour savoir quel est le revenu réel de quelqu'un.
Puis, n'oublions pas, et je le signale notamment pour nos plus jeunes auditeurs, qu'on est ainsi dans une époque de ferme générale, c'est-à-dire que ce sont des personnes particulières qui disposent de charges, qu'ils ont achetées d'ailleurs souvent très chères, qui récoltent l'impôt et qui en récupèrent une partie pour eux-mêmes. Donc bien entendu, ça crée des dysfonctionnements très importants à l'échelle de l'État, hein, bien sûr.
Ah, ça crée pas des dysfonctionnements, ça crée qu'on en récupère beaucoup plus qu'il n'en faudrait et qui ne va pas exactement là où
dans
il
les
devrait
bonnes caisses,
c'est
oui,
évident.
Voilà. Et est-ce qu'on peut parler pour Vauban d'une disgrâce à la fin de sa vie à cause de cette histoire de dîme, de ce projet de dîme royale?
Je ne pense pas, honnêtement. L'interdiction de circulation de son texte, qui n'avait pas été publié, hein. Il avait fait réaliser un certain nombre d'exemplaires, petite dizaine, vingtaine peut-être, qui distribuait autour de lui, suffisamment pour qu'on en parle, que ça alerte donc le Conseil du Roi, qu'une interdiction soit donnée, mais je n'irai pas jusqu'à la disgrâce. En revanche, lorsqu'il décède, obsèques, c'est une petite cérémonie à sa paroisse de Saint-Roch, et sa dépouille part directement à Bazoches.
Avant d'être transféré
sous Napoléon, alors que le Grand Condé, lui, c'était la basilique de Saint-Denis.
Bien sûr. Vauban, l'inventeur de la France moderne, et maintenant vous comprenez pourquoi, c'est le dernier ouvrage de Dominique Lebrun à la librairie Vuibert. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous donne les origines des expressions hôtel de police, hôtel de ville et hôtel des impôts. C'est à suivre sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec une question pour vous aujourd'hui, Franck, signé Hervé sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Il voudrait connaître l'origine des expressions hôtel de police, hôtel de ville, hôtel des impôts.
Oui, vous savez, le mot hôtel est très intéressant. C'est un terme très polysémique, comme on dit. Il a toutes sortes de sens en français. Alors aujourd'hui, pour nous, quand on parle d'un hôtel, c'est surtout un établissement commercial d'hébergement touristique, pour prendre la définition du dictionnaire. Mais il y a aussi le domicile particulier. Une belle maison de ville, ça s'appelle un hôtel particulier. Autrefois, c'était un hôpital, un hostel, un hôtel. Et puis, tout établissement public, d'une façon générale, portait, à partir du milieu du Moyen-Âge, le nom d'hôtel. La première forme connue en français, c'est hostel sans H, en 1050, et ça, c'est directement dérivé du latin hospes hospiis, qui signifie l'hôte, et ça fait référence à un hébergement provisoire. Et puis, un petit peu plus tard, au milieu du XIIe siècle, on parle donc d'hostel pour désigner une demeure particulière. Il faut attendre 1225 pour trouver l'utilisation du terme dans un cadre religieux. On parle d'hôtel Dieu. L'hôtel Dieu, c'est l'hôpital de l'époque, bien entendu. Et à la Renaissance, l'hôtel va désigner plus particulièrement la demeure d'un roi, d'un prince, d'une façon générale d'un membre de la famille royale. C'est-à-dire que c'est une grande demeure hébergeant un personnage officiel, d'une certaine manière, l'hôtel. On parle d'hôtel commun. À partir de 1478, ça c'est pour désigner la mairie, en attendant le terme d'hôtel de ville. Vous voyez, le terme d'hôtel de ville, il arrive en 1538. Alors on peut expliquer toute cette évolution par le sens initial du terme latin hospital, qui désigne un lieu d'accueil pour des étrangers, et d'hospes hospitis, qui fait référence donc à l'hôte. L'hôtel, vous aurez bien compris que c'est le lieu où l'on reçoit et c'est le lieu où l'on représente. Donc tous les termes dont nous parle Hervé, hôtel de police, hôtel de ville, hôtel des impôts, etc., ça vient de la même chose. On pourrait presque donner un équivalent, une sorte de synonyme historique qui serait établissement, tout simplement.